Présente Focus tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM
98 FM. Focus
98 FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Focus, toujours en compagnie de Sidi. Comment est-ce que tu vas, mon boss?
Non, ça va très bien et toi?
Très très bien, la phare. On est avec Jamal aujourd'hui et Farah, toujours derrière la caméra. Farah vous prépare de belles petites vidéos, qui seront disponibles sur le Instagram très prochainement.
C'est ça.
On va partager tout ça. Et aujourd'hui, on est avec Karim Oufaïd. Comment est-ce que tu vas?
Mais je vais très bien, je peux dire, parce que c'est... On n'a pas l'image, hein. J'imagine que c'est de la radio, de la vraie radio.
Exactement.
Je peux vous dire que tous ces visages qui sont autour de moi, j'ai été bien accueilli, j'ai des visages bienveillants et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir.
On est très heureux de t'accueillir.
Voilà, également. J'aime bien.
C'est un vrai plaisir justement de t'accueillir et tu sais, nous ici sur Focus, on aime bien justement mettre en avant ou parler justement des parcours un peu atypiques comme tu as. Et on va essayer de te découvrir, en fait, tout le long de cette émission. Et tu vas nous parler de toi, de tes projets, de ce que tu as fait, de qui tu es.
T'es notamment formateur, metteur en scène, producteur audiovisuel. T'as énormément de casquettes. On va essayer de toutes les découvrir ce soir, même si une heure, je pense que c'est très, très court pour ça. Et tu vas nous partager tes anecdotes de vie, tes expériences. Qui tu es, ta personne, on va essayer de la découvrir pendant cette heure-là. Avant ça, on s'écoute un petit morceau et on revient tout de suite sur Focus.
Vous écoutez Focus sur IDFM Radio 98 FM.
I lost my way somewhere in another galaxy. Too much to take, these memories ending in tragedy. In all of these places, all of these faces, I didn't wanna let you down. And all these mistakes of mine, I can't replace it. I gotta move on somehow. Healing energy on me, baby, all I really need's one day. Baby, can you make a wish for me?
Vous écoutez Focus sur IDFM 98 FM, nous sommes avec Karim Oufaïd. On va parler de toi, de ton parcours, comme je l'ai dit avant la pause musicale. Pour contextualiser un peu, je crois que tu viens d'un milieu ouvrier. Et toi, finalement, c'est dans l'art que tu traces ta voie. Comment est-ce que cette passerelle, elle s'est faite entre ton milieu de base, j'ai envie de dire, et toi, la voie que tu as choisie, la voie dans laquelle tu as voulu évoluer, grandir et un peu faire ton début de carrière?
Alors, si je peux me permettre, Mélik, moi je vais t'appeler Mélik et ouais, tu peux m'appeler Karim, parce que ça me va, Karim Oufaïd. C'est vrai que c'est mon nom de famille, mais tu peux m'appeler Karim.
Je le fais aussi pour les gens qui nous écoutent, comme ça ils savent à qui on s'adresse. Mais au fil de l'émission, on va garder Karim,
ouais,
bien sûr.
Et moi je vais garder Sidi et Mélik.
Exactement.
C'est ça.
Et donc, pour répondre à ta question, c'est un peu difficile de dire pourquoi on choisit une voie. Bon, c'est fait de plein de choses. La première, pour moi, je pense, hein, c'est le petit handicap, la petite situation de handicap que j'avais en enfant. On m'appelait El Ragon. Tu sais ce que ça veut dire, El Ragon?
Si
tu peux expliquer. Hein, alors, il y a plusieurs définitions. Moi, en tous les cas, vu que j'avais un cheveu sur la langue, ça voulait dire pour moi celui qui ne sait pas parler ou qui a du mal à parler. Et un peu aussi l'idiot, celui qui doit pas trop parler parce qu'il a un petit problème avec la parole. Et donc ça, au début, effectivement, j'ai tenu ma langue en me disant, oui, j'ai un cheveu sur la langue et effectivement, j'ai pas le droit à la parole. Et petit à petit, c'était en primaire, je me souviens très bien, et quelqu'un m'a dit, c'est une première rencontre, une institutrice, Madame Roche, qui m'a dit, mais tu sais, t'as un cheveu sur la langue, mais si tu veux, tu peux, si tu veux, aller voir une orthophoniste et peut-être travailler sur ce cheveu sur la langue.
Que tu n'as plus aujourd'hui, on l'entend plus.
Bon, on l'entend peut-être un peu, je sais pas, de temps en temps, peut-être de temps en temps, je sais pas. Et donc, je vais voir cette orthophoniste et je travaille sur ce cheveu sur la langue. Et petit à petit, je me sens de plus en plus à l'aise, un peu plus de confiance. J'ai moins peur de lire. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, enfant. C'est le moment où l'institutrice vous dit...
À
ton tour de lire. Et quelle angoisse. Des fois, on ne dormait pas de la nuit en disant « Pourvu qu'elle ne me demande pas de lire, etc. »
On se fait tout discret.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
On se cache, etc. Donc, on a tous eu cette peur, etc. Encore moins, vous imaginez...
Encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, voilà, amplifié à outrance. Et donc, je passe la primaire et j'ai une deuxième rencontre. Je parle des professeurs parce que l'éducation nationale, on parle souvent, on dit les professeurs, ils font pas leur boulot, etc. Une deuxième rencontre, Madame Beauvallet. Hein, il faut se souvenir des gens qu'on a rencontrés sur notre route. Et Madame Beauvallet, c'était en quatrième, elle me dit, ça te dirait de faire du théâtre? Du théâtre, qu'est-ce que c'est que le théâtre? Pour moi, comme tu disais, je suis d'un milieu ouvrier à la base. Mon père, il est ouvrier, il travaille dans une imprimerie, dans le 93, à Saint-Ouen, une grande imprimerie. Peut-être qu'on en reparlera. Et je me dis, le théâtre, qu'est-ce que c'est que cette histoire de théâtre, etc. Oui, et je pense à toi pour un rôle, pour jouer Lomov. Lomov, moi je m'appelle Karim, Lomov, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc.
Si tu peux expliquer, justement, ça.
Alors,
Lomov.
Lomov, c'est le prénom d'un personnage russe. Ok. Tchekhov, c'est d'un auteur russe, Anton Tchekhov. Moi qui suis algérien d'origine, de Saint-Ouen, marché aux puces, etc. Tchekhov, etc.
Il y a un petit fossé entre les deux.
Un petit fossé, et là encore, je me dis, mais est-ce que c'est possible pour celui qui ne sait, le Hagon, celui qui ne sait pas parler, d'être sur scène et d'avoir le premier rôle? Parce que là, c'est un premier rôle. Et je me dis, si, pourquoi pas, ça peut être ta place, et j'y vais. Et là, c'est quand tu parles de déclic, je ne sais pas si tu en as parlé, Mélique, c'est un premier déclic dans ma vie, deuxième déclic après.
C'est le nom de la séquence, en tout cas.
C'est le nom de la séquence, ça tombe bien. Et là, je me sens comme un poisson dans l'eau, sur scène. Et je me sens à ma place, et je me sens bien, et la confiance monte, et le public m'applaudit, etc. Donc c'est un moment, pour moi, c'est un moment, un fort déclic. Donc je remercie alors publiquement Madame Beauvallet, ce professeur qui m'a fait découvrir aussi le grec qui était aussi loin de moi, et le théâtre.
Mais voilà. Avant la représentation, t'as suivi des cours de théâtre?
Oui, mais au collège, tu vois, tu fais des ateliers théâtre chaque semaine, tu travailles ton personnage, t'apprends ton texte, avec tes amis, tes camarades, et à la fin de l'année, tu fais une représentation dans la ville et tu joues ton personnage. Et pour revenir au monde ouvrier, quand tu dis le monde ouvrier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 5 ans, quand je suis à Saint-Ouen, mon père donc travaille dans une imprimerie, il y a une grève qui démarre et qui va durer plus de 5 ans. Et c'est l'une des grèves les plus longues de France. Ceux qui connaissent dans le 93, là j'imagine qu'on est bien écouté dans le 93, c'est l'une des plus longues grèves de France, plus de 5 ans. Donc mon père est en grève pendant plus de 5 ans. Vous imaginez, pas une semaine, c'est pas deux semaines, c'est plus de 5 ans. Et moi, donc, je vais dans cette imprimerie le voir parce qu'il travaille. Il était dans l'imprimerie et il devient cuisinier. Bon, d'accord. Parce que les machines ne tournent plus, etc. Et progressivement, ils étaient 700 au début, et ils vont se retrouver à la fin que 20, une vingtaine, dont mon père. Et moi, sur toute cette période de 5 ans, je me retrouve avec cette imprimerie vide, où je pouvais me balader, il n'y avait pas de machine qui tourne, etc. Et cet espace vide, il est pour moi comme un espace, comme vous savez, on parle de cabane dans la forêt, on va jouer son petit jardin secret. Pour moi, c'était ça.
Un échappatoire.
C'était un échappatoire.
Et le théâtre a commencé peut-être ici, parce que, alors, je cite un auteur, un monsieur très célèbre qui est malheureusement aujourd'hui décédé, c'est Peter Brook. Il parlait de l'espace vide. L'espace vide, c'est l'endroit où tu peux laisser aller ton imaginaire, voilà, ta créativité. Et peut-être que le théâtre est né à cet endroit.
C'est un peu ce qu'on essaie de créer quand on est enfant, qu'on fait une cabane, qu'on s'isole un peu et qu'on essaie de créer son propre
univers. On essaie de créer son univers, son espace, comme tu dis, tu vois.
C'est ça, l'espace vide. C'est un beau mot mis sur cette situation, je trouve.
Et justement, en parlant d'espace vide, toi, vu tes multiples casquettes, ça veut dire que tu voulais vraiment pas laisser ton espace vide parce que, comme t'as dit, comme on a dit tout à l'heure, Mélik, il a dit, t'es réalisateur de films, t'es formateur aussi. Tu accompagnes beaucoup de personnes justement dans le langage maintenant aujourd'hui. Donc tu peux nous dire comment c'est arrivé justement le fait de vouloir maintenant accompagner à ton tour, le fait que tu aies été accompagné par tes professeurs de l'époque. À quel moment tu te dis je vais essayer de transmettre et on va revenir après justement sur ta carrière de réalisateur aussi. Mais là je veux sauter un peu une étape. À quel moment tu te dis ce que j'ai vécu, je vais le transmettre pour que les gens ou les jeunes ne le revivent pas, tu vois?
Alors, au début, on pense à soi et c'est ce qu'il faut faire. Moi, ce que je conseille, c'est qu'il faut être égoïste, penser à soi. C'est-à-dire, lorsque je commence à faire du théâtre, je pense à moi, je suis le poisson dans l'eau, je prends du plaisir à le faire. Et avec le temps, effectivement, au lycée, on crée un club théâtre. Et là, je me dis, mais c'est bien aussi de, je prends du plaisir à le faire, mais d'ouvrir le théâtre à d'autres personnes. Donc, avec mes camarades, je leur dis, venez faire du théâtre, etc. Et puis, à un moment donné, je me dis aussi, ça serait bien de parler de ce qu'on vit dans notre quartier. Moi, à l'époque, je vivais à Niers-Gennevilliers, et donc, il y avait beaucoup de problèmes de toxicomanie, beaucoup de seringues par terre, etc. Et les enfants, on avait plein d'histoires comme ça, qui sortaient de l'école ou de la piscine et tombaient sur des seringues. Et donc, certains les ramassaient, d'autres, et on avait du mal avec cette histoire de « il faut pas y toucher ». Est-ce qu'il faut y toucher, pas y toucher, les adultes, ou etc. Donc, il y avait une série de questions comme ça. Et je me suis dit que le théâtre, notamment le théâtre forum à l'époque, permettait de mettre en place du débat sur une situation qui pose problème. Donc ces histoires de seringues. Il y avait d'autres problèmes, mais là, à notre époque, c'était les seringues. Et on jouait une scène toute simple, une situation. On posait une seringue par terre. Un personnage sortait de la piscine, un animateur, on va dire, de centre de loisirs, et il disait au public, que feriez-vous à ma place? Est-ce que je dois ramasser cette seringue ou pas? Et public remplace l'animateur, on dit oui, bien sûr, il faut la ramasser. Oui, mais si tu la ramasses, où tu la mets, etc. Donc, il y a un débat théâtral qui se met en place. Et là, pour le coup, le théâtre devient à ce moment-là, pour moi, un outil pour parler dans mon quartier, dans ma ville, de difficultés qu'on rencontre collectivement. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Donc, point de départ, c'est soi. On est plus à l'aise, plus de confiance. Puis, à un moment donné, le théâtre, on le vit comme un outil au service du collectif. Et pour Sidi, quand tu me dis « oui, mais alors comment t'as eu envie ?» Alors là, ça répond un peu à ta question, c'est-à-dire que je me suis dit « moi, ça m'a fait du bien, et donc ça pourrait faire du bien aux autres. » Tu vois ? Exactement. Donc naturellement. Et puis, j'avais aussi cette capacité de me mettre à la place de l'autre, vu que moi-même, j'avais cette difficulté à prendre la parole, à avoir confiance, etc. Donc j'avais cette hypersensibilité pour les personnes qui avaient du mal à parler. Vous voyez ? Donc tout de suite, il y avait ce regard bienveillant que j'essayais d'avoir, pas toujours peut-être, mais les gens sentaient qu'ils étaient en confiance avec moi et ça permettait donc très rapidement de
libérer la parole.
Voilà.
Je nous reconnais un peu dans cette envie d'offrir un moyen d'expression, un lieu d'expression, comme nous on a pu faire. On a un plateau mobile aussi, aller au sein des quartiers, dans des parcs, en bas des tours et proposer du débat, de l'échange et créer cet engouement autour de l'outil qu'est la radio pour créer de l'échange et tout simplement lier les gens
et puis apprendre à connaître aussi les gens. Et c'est ce qui fait qu'on évolue et qu'on essaye de créer des liens. Et nous, c'est ce qu'on aime justement ici. Et il y avait une autre aussi, tu as une autre casquette, on va en parler là, c'est t'es réalisateur. Mais moi, avant ça, je veux te poser la question parce que tu as une grande attache en fait avec la Chine. Donc en fait, on aimerait savoir d'où ça vient. Jeune de banlieue, de Saint-Ouen, qui se retrouve justement à réaliser des films à tourner aux États-Unis ou peut-être en Chine aussi. Comment il se fait ce lien, tu vois?
Ce que j'aimerais dire, c'est souvent on se pose la question, on se dit souvent, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis pas un imposteur? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je prends pas la place de quelqu'un d'autre, etc. On se pose souvent cette question. On se dit, peut-être qu'il y a, voilà. Et quand tu dis oui, qu'est-ce que t'es allé faire en Chine? T'es pas chinois, qu'est-ce que c'est?
Après, pas ce que t'es allé faire, mais comment tu t'y intéresses?
Comment je m'y intéresse? Alors, comment je m'y intéresse? D'abord, avant de parler de la Chine, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis intéressé à la Première Guerre mondiale. Alors, je sais pas si ça vous parle, la Première Guerre mondiale, c'est loin de nous, peut-être, en termes de temps.
De ce qu'on apprend à l'école.
Et c'est très éloigné. Bon, la façon dont on nous apprend cette Première Guerre mondiale, elle est
éloignée,
elle est
fait,
pas sexy, entre guillemets, ou comment on pourrait dire, je sais pas quel mot, mais attractif. Et il y a de plus en plus maintenant, quand même, d'enseignants qui réussissent par d'autres chemins à faire apprécier cette période qui est très importante dans notre histoire. Alors, moi, comment j'ai accroché à cette histoire, c'est à travers une photo, toute simple, d'un poilu traversant une rive et qui se retourne. Il est avec ses camarades embarqués comme ça à traverser cette rive et lui il se retourne. Il me lance comme s'il me lançait un regard. Et cette image, je l'ai vue dans un stéroscope. C'est une image en relief, en 3D, la 3D du 19e siècle. Et je me dis, mais il me regarde et il me demande. Alors ça, c'est comment on l'explique. Il faut que tu racontes mon histoire. Et moi, qu'est-ce que je connaissais de la Première Guerre mondiale? Mon père n'avait pas fait, ni mon grand-père. En tout cas, dans mon entourage, on ne parlait pas de la Première Guerre mondiale. Mais je me suis dit, j'ai eu cette intuition de me dire, il faut que je raconte cette histoire. Et cette histoire, je vais la rencontrer à Verdun. Je vais la rencontrer avec Thierry Maquet, qui est un monsieur qui arpente les champs de bataille depuis des années. Et qui, lui, a vraiment une histoire connectée à la Première Guerre mondiale, parce que pendant la Première Guerre mondiale, sa famille a été sauvée de la famine par les Américains. Et il veut rendre, service au cimetière américain. Il fait pas mal de choses, etc., autour du cimetière américain. Et ce jour-là, il vient de faire la découverte de sa vie. Il vient de découvrir une médaille d'un soldat américain. Il l'a dans sa main. Je le rencontre pour la première fois. Il me dit, monsieur, je suis ému, je viens de faire la découverte de ma vie, laissez-moi quelques instants pour que je reprenne mes esprits. Et moi, je vois cette médaille et je vois marqué Laclaire. Donc, c'est un soldat américain qui est d'origine française. Et là, d'un seul coup, je me dis, je vais partir faire mon premier film, là, aux États-Unis. Et effectivement, la petite fille de ce soldat vient en France, elle est assez riche, on va dire. Et elle nous propose de venir. Donc moi je la filme, hein, la rencontre, c'est mes premières images, la rencontre entre Thierry Maquet et cette dame. Je les filme et elle nous dit, ben venez aux États-Unis, il faut que vous veniez raconter cette histoire. Et je me retrouve donc embarqué aux États-Unis avec Thierry Maquet à raconter l'histoire et à filmer. Donc je fais mon premier film sur cette histoire de cette découverte de médaille.
Excuse-moi, je te coupe, mais toi, à ce moment-là, c'est quoi ton rapport à l'audiovisuel, à la vidéo? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, tu avais une caméra et que tu filmais la rencontre?
Alors, c'est toujours, tu parlais de la radio tout à l'heure, c'est quel est le meilleur outil à un moment donné pour raconter une histoire? Ça peut être la radio, ça peut être, on parlait du théâtre, ça peut être le théâtre, ça peut être la musique.
Oui, il y a énormément de moyens.
Il y a plein de moyens. Et là, je me dis, cette rencontre qui va se faire sur un champ de patates, parce que la dame voulait savoir où il avait trouvé donc cette doctaque, cette médaille. Je me suis dit, la caméra, c'est un moment pour garder ce figer précieux, figer ce moment, voilà, un moment important. Et donc, bon, voilà, donc je suis parti sur cette idée de caméra, sans me dire que j'allais faire un film. Hein.
Oui, donc
voilà.
À ce moment, t'as aucune ambition de faire réalisation.
Non, pas du tout. Et aux États-Unis, je me dis, oh, ça serait bien d'aller filmer aussi dans les écoles américaines, voir comment ils accueillent la venue de Thierry Maquet avec cette médaille. Qu'est-ce qu'ils savent de cette Première Guerre mondiale? Donc, j'explore avec cette caméra cette histoire autour de la Première Guerre mondiale. Sidi m'a demandé, il me disait, oui, mais la Chine, alors comment ça se fait la Chine? Donc, avant la Chine, donc il y a les États-Unis, je pars aussi en Allemagne, je m'intéresse aussi aux tirailleurs sénégalais, je m'intéresse au chemin des dames, un sculpteur d'éclats d'obus, un monsieur qui va chercher des éclats d'obus sur les champs de bataille de cette époque-là et qui en fait des sculptures. Donc, je le suis sur le chemin des dames. Et à la fin de ce parcours, je me dis, bon, Karim, tu t'es quand même, à partir de cette photo, t'as fait assez de boulot sur la Première Guerre mondiale, tu peux te reposer, tu peux t'arrêter. Et là, je me trouve à La Rochelle, et à La Rochelle, Je ne sais pas pourquoi je me pose cette question, mais je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en Chine pendant la Première Guerre mondiale? Il faut se la poser, cette question.
Eh ben, justement, c'est pour ça qu'on te la pose et on est là pour que tu nous racontes tout ça.
Et donc, je me pose cette question et tout le monde me dit, la plupart, hein, comme là, vous me dites, bah non, il ne s'est rien passé en Chine, on n'a pas d'histoire à l'école, on n'a rien appris sur la Chine. Jusqu'au moment où quelqu'un me dit, mais si, il y a eu des Chinois pendant la Première Guerre mondiale en Europe, il y en a eu 140 000, et le dernier d'entre eux, Monsieur Chou, est décédé pas loin d'ici, à La Rochelle, à 103 ans. Donc il y a une histoire, 140 000 sont venus, qui constitue la première grande vague d'immigration de Chinois en France pendant la Première Guerre mondiale, et le dernier d'entre eux est mort à deux pas de l'endroit où je me pose la question.
Heureuse donc, coïncidence, enfin pas le fait qu'il soit décédé, mais qu'il soit décédé en France, pour le coup, pas très loin de toi.
Et donc il me dit, Monsieur Chou, il me dit, ben oui, t'as pas fini, hein, il faut que tu racontes aussi mon histoire.
Mais c'est...
Et voilà. Et donc me voilà parti en Chine, avec cette histoire, et aller sur les traces des descendants de ces travailleurs chinois venus pendant la Première Guerre mondiale en France. Et cette histoire, pourquoi elle m'intéresse? Parce que je parlais de la grève de mon père à l'imprimerie Chex, hein, c'est 5 ans. C'est des ouvriers, des travailleurs, des gens qui étaient dans l'ombre de l'histoire, qui n'ont pas eu le droit à des chapitres dans les livres d'histoire. Donc ça aussi, ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé de me dire comment je peux mettre en lumière cette histoire qui n'est pas connue, qui était même méconnue, aussi bien en Chine qu'en France. Et donc je me suis dit, je vais me mettre au service de cette histoire. Et cette histoire, elle m'a conduit vers de nouvelles aventures en Chine.
Et du coup, toujours pour contextualiser, que les gens comprennent, quand tu fais ça à ce moment-là de ta vie, tu le fais pour le compte de quelqu'un, toi en totale indépendance, comment est-ce que tu travailles finalement?
Mais c'est ça, c'est là où je suis un peu à mon compte. Sans sous. Et oui, et c'est ça
le précurseur de l'entrepreneuriat ou des micros entreprises.
Et c'est là où vous comprenez qu'un entrepreneur, ça prend des risques.
Ouais, bah,
mais aller en Chine, parce qu'on m'a dit, mais attends Karim, alors c'est bon, t'es allé aux États-Unis, on connaît un peu, t'es allé en Allemagne, en Europe et tout, les tirailleurs sénégalais, les Sénégalais, on les connaît, etc. Mais aller en Chine, calme-toi, qu'est-ce que tu allais faire en Chine? Tu parles pas le chinois, tu connais pas de chinois, etc. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que je suis à ma place? C'est toujours la même question que je me pose. C'est pas où je vais en Chine ou je ne sais où, etc., même à côté de chez moi. Est-ce que je suis à ma place? Et donc, si cette histoire, je me suis dans mon fort intérieur, en me disant, je suis à ma place, il faut que je raconte cette histoire. Où ça va me mener, je ne sais pas. Donc on peut pas le faire tous les jours, ça. Ce que je vous dis, je vous dis pas d'aller en Chine. Voilà.
Ah, demain, on va prendre.
Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des questions. On se pose une question, on dit est-ce que je vais dans cette direction? On se dit oui, et en fait, on le fait pas.
Ouais.
Parce que on se dit maintenant, parce que d'autres vont vous dire maintenant, mais qu'est-ce que tu vas faire là? T'es mieux là, ou qu'est-ce que tu vas faire ci, etc. Non, c'est vraiment à un moment donné se poser et se dire est-ce que je suis à ma place, et aller en Chine, j'étais complètement à ma place.
En tout cas, chercher sa place, comme tu dis, ça demande énormément de courage
et de réflexion. Ouais, c'est ça, de courage, c'est-à-dire de pouvoir partir ailleurs, un pays que tu connais pas, en même temps. Ça me fait penser à un truc, c'est-à-dire que t'as immigré peut-être en Chine pour l'aventure d'un film ou quoi, mais nos parents, ils l'ont fait.
Et voilà, hein, j'allais le dire, tu m'as enlevé le mot de la bouche, de la langue.
Exactement.
Ou de la langue. Nos parents, ils ont fait, nous, c'est rien. Pour un film.
Et en plus, t'avais les armes aussi, tu vois, nous, nos parents, ils arrivent. Même si toi aussi, tu parlais pas la langue quand t'arrives là-bas, mais t'as quand même... Je sais pas, il y a une certaine technologie qui est peut-être un peu plus avancée qu'à l'époque, tu vois.
Mais c'est intéressant. Là, on parle de la Chine et moi j'invite parce que au début on m'a dit la Chine, il va pas, tu vas voir, tu vas être mal reçu et je sais pas quoi, etc. Et je suis allé avec des personnes qui m'ont dit mais moi je rêvais d'aller aux États-Unis, etc. Mais en Chine ils se sont dit mais non, finalement c'est pas mieux que les États-Unis, mais c'est un vrai rêve d'aller en Chine. C'est un autre monde, c'est un autre univers, et j'invite tous ceux jeunes, hein, plutôt, parce qu'on a le temps devant soi, d'aller faire un petit séjour en Asie. L'Asie, c'est intéressant. Hein.
Ça veut dire quoi, ça? Non, mais c'est vrai que l'Asie, c'est intéressant. Et puis même pour les nouvelles générations, c'est vrai qu'on est attiré par les États-Unis, le fait où... Mais là, de plus en plus, je pense que les...
Moi, pour le coup, si je devais faire un gros voyage, ce serait plus en Asie qu'en Amérique. Quoi. Carrément, pour la découverte. Mais je parlais de courage tout à l'heure, pour l'aspect saut dans l'inconnu, et aussi... le côté fiduciaire, financier, qu'est-ce que je vais en tirer de tout ça? Est-ce que ça va me... culturellement, au niveau de l'expérience, forcément, on va en tirer quelque chose, je pense. Mais il y a une stabilité financière.
Ouais, c'est vrai. Et après, il faut vivre, justement. Ouais. Mais je pense qu'on va en reparler après, comment t'as réussi, justement, avec toutes ces expériences-là, justement, à essayer de monétiser aussi, ton expérience et le. Mais avant ça.
Carrément, ouais. Je pense que t'as bien teasé la chose. Avant ça, on va continuer à découvrir. On va le faire en musique. Tu nous as proposé des morceaux qui te tiennent à cœur. Peut-être que t'as des anecdotes autour de ces morceaux. On va écouter le premier extrait et on revient tout de suite.
Vous écoutez Focus sur IDFM Radio 98 FM.
Savez-vous planter les choux? Planter les choux. Ah, yeah. À la mode de chez nous. Ah, de chez nous. Ah, yeah. Nous. Savez-vous planter les choux? Planter les choux. Ah, yeah. À la mode de chez nous. De chez nous. Ah, yeah.
Dans mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave. Allez, venez tous faire un tour au turf. Planter la petite graine, moi c'est mon taf. Au salon de l'agriculture, j'ai fait mes preuves. Rien n'est plus ghetto que ces montagnes. Y'a pas que toi qui peux te vanter, t'as fait sur les champs. T'es ma montre à d'or négro, t'es mal à la taille de mes jambes. Chez moi, on met des patates, on les plante et récolte pas ça en train de blanc. Car on a de la pure frappe à la Del Piero. Négro, même de la pluie, j'ai pas peur. J'ai toujours mes outils, mon arrosoir, mes bottes et mon
sécateur, 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 ouais. Mes négros font ça à la journée mauvaise. J'm'en tape des coquelicots. Les fruits et légumes, c'est pour faire des lovés. J'y crave des haricots. Frérot, c'est quoi les bacs? C'est comment? Comment? Comment?
Planter les choux coco remix de Mr. V. Je t'avoue que quand tu nous as envoyé ce choix, on était surpris avec l'équipe. On s'est dit, mais c'est drôle parce que généralement, les personnes nous envoient des morceaux très émouvants ou très dansants. Donc là, c'était très différent. On veut savoir pourquoi tu as choisi ce morceau.
Alors, pourquoi j'ai choisi ce morceau? Parce que, mais j'ai pas trop réfléchi, hein.
C'est-à-dire qu'à un moment donné. On a besoin d'explications.
Je vais vous donner des explications. Mais planter des choux, mais c'est une chanson vraiment, mais je sais pas qui m'accompagne depuis tout petit. Savez-vous planter des choux?
À la mode de chez nous.
À la mode de chez nous. À la mode de chez nous. Et je trouve cette chanson incroyable. Elle est légère, ses paroles. Et en même temps, c'est l'enracinement, c'est la terre. En ce moment, je crois que c'est la période des choux, même des choux, c'est des poireaux,
pas
des choux.
Du tout.
Ouais, je pense que si, c'est la période.
On va se renseigner.
C'est pour ça que j'ai choisi. On mange des choux là en ce moment, c'est la période des choux. Et c'est à la mode de chez nous. C'est aussi effectivement l'enracinement, la terre et l'ouverture. Savez-vous planter des choux? Je sais pas. Je trouve cette chanson accueillante. En même temps, on peut la prendre dans plein de façons différentes. Je sais pas. Elle m'accompagne depuis tout petit.
Et ça remonte à l'enfance. Et le fait que ce soit Mr. V qui la remette au goût du jour, justement.
Oui, ça m'a plu. Voilà. Aussi. Ouais.
Peut-être que c'est des souvenirs un peu enfouis, peut-être qui remontent.
Ouais. C'est l'enfance. Et c'est comme tu dis, c'est revisiter. Et c'est bien de revisiter son histoire, dans le bon sens du terme, se l'approprier et s'approprier cette chanson comme ils l'ont fait. Je trouve ça magnifique.
C'est vrai, j'aime beaucoup l'explication, je suis content de l'avoir eu. On va passer au deuxième extrait et on revient tout de suite sur Focus.
Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ce deuxième morceau et pourquoi tu as fait ce choix?
Alors, c'est Farideh la Trash. Ah, c'est ça, hein, parce qu'on m'a pas dit, hein. Moi, je savais pas que c'était cette version, la version historique, je dirais. Mais alors, cette chanson, elle a un lien avec, savez-vous planter des choux aussi, avec ce qu'on a entendu juste avant, parce que c'est un rapport à la terre. Donc, tout à l'heure, c'était l'enracinement. On est dans le pays d'accueil, on apprend voilà, cultiver la terre, les choux de, voilà, ce qu'on cultive pas, donc, dans le pays d'origine, pour le coup, de mes parents. Mon père est parti, on parlait de il était ouvrier, on parlait de l'exil, etc. Et c'est vrai que parfois, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi je suis parti, quoi? Pourquoi je suis allé si loin de chez moi, etc. Et ceux qui sont restés, parfois, vous disent, ben oui, moi, je suis heureux, je suis bien, etc. Toi, t'es parti, qu'est-ce que tu as gagné de plus? Ouais, qu'est-ce que tu gagnes, etc. Et donc, cette chanson, alors, Sidi le disait aussi tout à l'heure, ça accompagne la jeunesse. C'est une chanson qui me rappelle, donc, je disais, mon père et qui nous a accompagnés. Il y a eu plusieurs versions de cette chanson.
Exactement.
Donc, elle a été, encore une fois, revisitée, et puis, sûrement qu'elle sera encore remixée, ou comme on pourrait dire, qu'un groupe ou qu'un chanteur va se la réapproprier. Ouais. Mais cette histoire, on parlait des travailleurs chinois tout à l'heure, c'est cet exil, on part de chez soi. Et souvent, les travailleurs chinois, ils partaient parce qu'ils étaient pauvres. Hein, ou ils partaient lorsqu'ils ont été engagés pendant la Première Guerre mondiale. Ils avaient des contrats de travail, c'est-à-dire qu'on les payait. On leur disait, ben, si vous venez en Europe, vous allez être payé, vous allez gagner des sous. Et quand ils venaient en Europe, donc ils étaient seuls, hein, dans des camps, et ils renvoyaient cet argent, peu d'argent qu'ils gagnaient, à leur famille restée en Chine. Souvent lorsqu'on part de chez soi, c'est pas de
gaieté de cœur, c'est vraiment cœur.
Surtout c'est vraiment au début on n'est pas imaginé d'y rester aussi longtemps, c'est-à-dire qu'on se dit mais je pars 6 mois, je pars 1 an, mais je vais pas rester 30 ans. Mon père est resté toute sa vie en France, donc cette chanson elle raconte un peu, voilà, cet exil.
L'exil
et... Ouais, et la pauvreté, c'est la raison première, je pense,
de l'exil,
exactement.
Mais ça n'empêche pas qu'on apprend à aimer aussi le pays, savez-vous,
d'adoption,
et qu'on se fait des amis, et que parfois beaucoup n'ont plus envie de repartir. Hein. Il y a aussi des gens qui ont. Aujourd'hui, c'est vous vrai, leur dites, tu repars chez toi, ben dis non, je suis bien maintenant, je suis français, quoi.
et c'est important de le souligner, ça aussi. On est venu nous chercher, ou on est venu chercher justement nos parents, les grands-parents, et après, à partir du moment où on est là et on est dans la culture et on commence à évoluer dans tout ça, ben maintenant tu vas pas nous virer. T'es venu nous chercher, c'est on va possible, rester quoi en fait, tu vois.
On est les choux plantés ici.
On passe au troisième morceau et on revient tout de suite.
Vous écoutez Focus sur IDFM Radio 98 FM.
Off, on a eu un petit débat sur le titre. Je ne m'en souviens pas et je veux surtout pas mal le prononcer.
Je pense que c'est Dahai, mais ouais, j'en suis pas sûr. Et moi, c'est cette chanson. Je me souviens de cette chanson qui a été chantée par une personne. C'était à la projection du film Les Travailleurs Chinois. La première projection, c'était à la mairie du 13e arrondissement. Et une jeune femme a chanté cette chanson et ça m'a touché. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est Tieni, je me souviens bien. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette chanson? Elle me touche, je comprends rien du tout. Et elle me touche. Et en fait, c'est une histoire universelle. On parlait de l'exil, c'est aussi cet attachement à la terre. C'est une histoire universelle. C'est l'attachement à la terre, à sa famille, à sa culture.
J'allais dire, tu sais ce qu'elle raconte, cette chanson?
Oui, c'est ça. C'est le rapport... C'est un rapport à la terre, à l'éloignement, à l'exil encore une fois, et à l'éloignement de son pays d'origine, de sa culture d'origine, voilà. Et avec, alors il y a un rapport aussi à la mer, à l'océan, et l'attachement aussi spirituel à sa culture, à sa
racine,
à ses racines, voilà.
En tout cas, merci, merci justement pour ces explications. Et puis, ça nous change aussi, nous, de notre quotidien musical, tu vois. Et c'est bien de faire découvrir ça, justement, à nos auditeurs.
Et cette dernière chanson, tu l'as découverte avant ou après ton voyage en Chine?
Après mon voyage en Chine, j'ai donc organisé une projection et cette chanson a été chantée juste avant la projection du film, dans le cadre du Festival du film chinois de Paris. Et donc voilà, je l'ai découverte. Et cette chanson, je l'ai retrouvée en Chine. C'était à Qingdao, où des enfants ont chanté cette chanson. Voilà. Donc je l'ai retrouvée à plusieurs reprises, cette chanson. Et c'est une chanson très connue en Chine. Et pour moi, c'est aussi un clin d'œil, parce que je sais qu'à Aubervilliers, il y a
une forte communauté chinoise,
d'origine vietnamienne et chinoise. Et cette chanson, je pense, va les toucher au cœur aussi.
En tout cas, on leur enverra le lien, et s'ils peuvent nous suivre aussi, c'est bien. Hein.
Donc, ouais, à Aubert, j'ai mangé les meilleurs sandwichs vietnamiens de ma vie.
C'est vrai?
Ouais, donc dédicace à la...
C'est quoi le resto? On fera pas
c'était
de
pas
pub,
un resto, c'était un camion food truck dans la rue, je sais pas où c'est. Je m'en rappelle plus. Bon, on s'en fout.
Ouais, mais...
c'est là où il y a les fournisseurs à Aubervilliers, okay, de textiles. Donc,
grosse dédicace à la communauté
vietnamienne. Vietnamienne.
Vietnamienne et chinoise aussi.
Exactement. On va passer à un autre morceau, on va se faire une petite pause musicale et on va revenir tout de suite sur Focus avec Karim Oufet.
Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Can't you see it's just me and you? Panoramic view, that's my point of view, babe. All about me, that's the energy. That's that lemon pepper thing, I'm a 10-piece, baby. Bedroom fully in a bando. He gon' make it flip, do it with no handles. Never switching sides, only switching angles. Ooh, we go crazy like Rambo. Got it tucked, he gave it up. Pocket stuck all night, I like. You ain't gotta say it when you know it's on side.
She got anything he wanted, a nice body, ass hat. Behind every gangster, shot it solid, they got his back. He know who to come to every time the world handling bad. The one he called first, but still he always put a last. I'm pouring out the glass, my body fighting off that gas. On school arts, I kill him, that's all I pack, kicking my ass. In studio dozing off, I can keep falling asleep. I hate that for you niggas ain't got no bread for trying to beat. Being black in America is the hardest thing to be. Every thug need a little love too, baby, how about me? Told her don't call me the sneak, cause I spend a lot of money. I put her down the greatest, baby, hold this here for me. I took her from my nigga, we vibing 2 weeks out of the country. Said she had a little situation, but I could tell it ain't by nothing. I mean her rapping, bitch. She say don't hush me, I say don't rush me. And I can tell how much she like a nigga by the way she suck. Oh, what it is?
What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up.
Vous écoutez Focus sur IDFM Radio 98 FM. Nous sommes toujours avec Karim Oufaïd. Karim, en première partie, on l'a dit que ta vie se résumait aussi et surtout à... Enfin, c'est difficile de résumer ta vie, là, pour le coup.
Parce qu'il y a pas mal de choses, quand même, mais c'est bien résumé, quand même, depuis le début de l'émission.
Mais à l'accompagnement des autres, tu fais notamment de la formation. Ce qui m'a étonné, c'est que tu le fais sur vraiment différentes thématiques. Tu fais de l'accompagnement aux médias, j'ai cru comprendre de la sensibilisation au handicap, à la parentalité. Comment, au cours d'un parcours, on accumule autant d'expérience pour être légitime finalement de former les gens sur ces sujets en question?
Alors moi, tout à l'heure on disait est-ce que je suis à ma place? On se pose cette question, est-ce que je suis à ma place? C'est toujours la question que je me pose. Et en général, je me base beaucoup sur la personne que je rencontre aussi. C'est-à-dire qu'on parlait de la parentalité, la personne qui vient me chercher, normalement elle me connaît un peu et elle se dit Karim, ça va être la bonne personne pour ce public. Je prends un exemple. Là, je travaille avec des parents, des primo-arrivants. Ça, c'est des parents qui viennent d'arriver de leur pays dans un quartier. Et on aimerait les accompagner pour les aider à prendre la parole au conseil de classe, avec des professeurs, etc. Et donc la personne me dit, ben voilà, Karim, est-ce que tu veux t'inscrire dans notre projet? Il y a un projet d'association. Et est-ce que tu peux aider, accompagner ces personnes? Je parle pas le chinois, hein. Je parle pas le russe, je parle pas l'ukrainien, ou je ne parle pas l'espagnol, etc. Et je vais effectivement essayer de trouver des chemins pour aider ces personnes-là. Je pense que c'est ça. C'est une de mes qualités, c'est vraiment être à l'écoute et de trouver les chemins qui sont pas toujours les mêmes et pas être dogmatique dans ma méthode. D'accord. C'est-à-dire, j'aborde un sujet toujours en me disant c'est nouveau, même si je l'ai déjà fait, j'ai travaillé sur la parentalité, me dire être parent à cet endroit, c'est pas la même chose qu'être parent à tel autre. Tu vois, donc ça c'est la première chose. Donc la personne me dire c'est tout à reprendre, et puis surtout travailler en amont, s'intéresser au sujet, les aidants, par exemple les aidants familiaux, c'est un sujet que je ne connaissais pas. Aidant, c'est quoi? Aidant professionnel, aidant familiaux. On aide une personne qui, un conjoint qui a Alzheimer, un enfant qui est handicapé. On est aidant. Je ne sais même pas ce mot-là. Et je me suis intéressé au sujet. Et je trouve que c'est une dimension humaine, et c'est ça qui m'intéresse à chaque fois. C'est Sidi qui parlait de tisser du lien. C'est les aidants ont besoin eux aussi. Donc, bien sûr, ils accompagnent une personne, mais ils ont besoin de tisser du lien dans le quartier, dans leur ville. Et participer à ça, ça correspond complètement à mon projet, je veux dire plus général, de tisser du lien dans la société entre. Et les aidants, alors j'utilise les outils que tu parlais, on parlait du cinéma tout à l'heure, du théâtre, différents outils en fonction du public.
Ouais, dans l'adaptation à chaque fois.
Voilà, je suis pas dogmatique, c'est-à-dire je me dis pas il faut utiliser, ça peut être pour ça qu'on pourrait peut-être travailler ensemble, hein. Ça peut être la radio à certains endroits parce que
c'est
les gens
un bon
veulent
outil, ouais.
C'est un très bon outil, les gens veulent pas être filmés et donc c'est un très bon outil pour certains publics. Pour les aidants, par exemple, je vois bien une émission avec des aidants familiaux.
Et en plus, on peut justement après adapter au langage aussi, tu vois, au langage, à la traduction, au fait que tu puisses faire passer des messages en fait à des gens qui comprennent pas la langue française et qui vont écouter justement des consignes. Il y a plein de choses en fait à faire avec la voix.
Et Sidi, c'est intéressant. On parle de la voix. Alors moi, je viens de mettre en valeur la radio et je trouve que c'est un outil formidable. Mais quand je suis allé en Chine, sans parler, sans la voix, on peut, et vous le savez bien, se faire comprendre par regard, par le corps, et le langage corporel, il est presque encore plus puissant que la voix. Voilà. Donc, il y a plein d'outils, il faut l'utiliser au bon endroit, donc, par exemple, avec les primo-arrivants, les parents, on travaille beaucoup sur le corps, et je pars, de leur langue, on joue dans leur langue d'origine, pour commencer.
Donc, c'est toi, finalement, qui t'adapte à eux, et les met dans un environnement qui les met à l'aise peut-être et qui les met en confiance.
Voilà, j'essaie de les mettre à l'aise et eux me mettent à l'aise aussi souvent. Voilà.
Et concrètement, du coup, dans ces formations, selon le public ciblé, la thématique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu donnes de ta personne?
Alors, encore une fois, ça dépend du public. Quand je travaille avec des tout petits dans une école primaire ou avec des doctorants là en pharmacie ou des gens qui sont dans la filière nucléaire ou environnementale, etc., c'est pas le même public. Ils ont pas les mêmes attentes. Ils ont pas les mêmes Donc d'abord, c'est vraiment me préoccuper quel est leur besoin, où ils en sont. Et là, donc je me dis est-ce que je suis vraiment utile? Donc c'est toujours la même question, est-ce que je suis à ma place? Et là, je vais m'entourer. Je suis pas tout seul à intervenir, hein. On est plusieurs. Si on va travailler sur l'écriture, si c'est important, je vais faire venir un scénariste. Si c'est important travailler la voix, je vais faire venir un quelqu'un qui est spécialiste de la voix. Et j'ai des intervenants et une équipe avec qui je travaille depuis des années. Et on intervient, en équipe. Des fois, moi, je n'interviens pas.
D'accord.
Voilà. Donc, moi, mon travail, c'est de mettre les conditions pour que la formation soit la plus pertinente possible. Mais je me dis pas, à chaque fois, il faut que je sois dans la formation, à chaque fois, D'accord. Il faut que je sois dans le... Vous voyez ?
Et il y avait cette envie aussi, justement, de transmettre et de pouvoir raconter aussi des histoires et des parcours de vie que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler de TEDx, justement ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est quelque chose aussi que tu fais et que tu es, entre guillemets, ambassadeur, peut-être, en France. Donc, est-ce que tu peux nous éclaircir par rapport à ça aussi?
Alors, je ne suis pas ambassadeur, okay. parce que je suis ambassadeur d'une association, l'association des jeunes chinois de France, okay. qui m'ont nommé, alors ambassadeur, je sais, pour me remercier sûrement. Et voilà. Mais sinon, sur les TEDx, alors TEDx, je découvre ses conférences à la Sorbonne. Mon neveu est à la Sorbonne et il a dans l'idée d'organiser une conférence TEDx en tant qu'étudiant. Et à l'époque, j'étais dans le théâtre, je présentais des événements, et il m'a dit, bah, voilà, tonton, est-ce que tu pourrais m'accompagner dans cet événement? Je dis, ouais, mais qu'est-ce que c'est que t'es dit que ça? Il m'explique. Donc, c'est une prise de parole qui dure un quart d'heure en général, parce que l'inventeur du TEDx a dit, bah oui, le temps d'attention maximale d'une personne, c'est 15 minutes. Donc, passé ces 15 minutes, les gens décrochent, n'écoutent plus. Peut-être que nous, nos auditeurs ont peut-être déjà décroché. Je sais pas.
Ou pas. Mais, généralement, je pense qu'ils sont fidèles.
Ils sont fidèles.
On n'espère pas.
Mais il y a ce calcul-là. Alors, je sais pas s'il est vraiment juste. Ça dépend ce qu'on raconte. Mais c'est un quart d'heure. Donc, vous avez, dans une conférence TEDx, peut-être une dizaine de speakers, de prises de parole, qui vont durer un quart d'heure. Sur des thèmes différents. Alors, ils ont en commun un thème, un sujet, qui est, par exemple, le prochain TEDx qui aura lieu à Marseille, ça sera sur le monde d'après. Le thème, c'est le monde d'après. Donc, chacun va venir, avec ce fil conducteur qui est le monde d'après, parler pendant 15 minutes. Vous allez avoir un sportif, vous allez avoir un cuisinier, vous allez avoir un entrepreneur, etc. Et chacun va prendre la parole pendant 15 minutes. Et ça se passe devant 1000-2000 personnes, moins parfois. Ça, voilà, nous, en tout cas à Marseille, c'est un millier de personnes. C'est au Pharo, c'est un lieu emblématique de Marseille. Et vous avez donc un partage de savoir, un partage, une transmission. Et c'est comme une banque de savoir parce que c'est aussi filmé. Donc, si vous ratez la conférence, vous pouvez la retrouver sur les réseaux, en vidéo. Et donc, mon travail, moi, c'est de présenter l'événement et d'accompagner à la prise de parole des personnalités.
Et donc, ces personnalités, comment elles sont choisies? C'est vous qui allez les chercher ou est-ce qu'elles se proposent d'elles-mêmes pour participer?
Moi, on parlait des rencontres tout à l'heure. Ça peut être une rencontre. Ça peut être Sidi, peut-être. Là, on va discuter.
Bah ouais,
on discute. Peut-être que Sidi.
Ah, j'ai plein de choses à dire, moi.
Voilà. C'est une rencontre. C'est se dire, mais est-ce que lui, il est inspiré? Est-ce qu'il veut aussi partager? Parce que dans la vie, il y a des moments dans la vie où on est un chercheur. On a découvert la cuisine moléculaire. On a eu ça, un monsieur comme ça qui a découvert la cuisine moléculaire. Mais des fois, on veut rester dans son laboratoire et pas partager parce que c'est pas le moment. Et voilà. Donc, ça dépend du timing. S'il y a des gens qui sont à un moment de leur vie où ils se disent, ah, mais j'ai envie de partager.
J'ai envie de transmettre
et partager. Voilà. Donc, Sidi, peut-être.
Pourquoi pas. Voilà, on peut en parler. Hein. Voilà. Je vais réfléchir.
Mais moi, ce qui m'intéresse plus que les TEDx, c'est encore autre chose, c'est les conférences du trèfle. Et qu'est-ce que c'est que les conférences du trèfle? C'est donner la parole à des jeunes qui ont réussi à rebondir. Alors, suite à une maladie, à une déception amoureuse, à un licenciement, ce qu'on peut imaginer. Et comment ils ont réussi à rebondir et comment ils peuvent transmettre, les clés de ce rebond qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais qui va peut-être parler à 2-3 personnes dans la salle. Et je tiens vraiment à ces conférences qui sont un peu moins prestigieuses que les conférences TEDx, mais qui touchent souvent au cœur les jeunes parce que c'est un autre jeune qui vient de s'en sortir il y a quelques années ou il y a peu de temps. Et voilà. Et il y a une dimension humaine qui est,
Et je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont aussi dans un mal-être. On s'en rend pas compte, hein, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui, parce que ils se sont enfermés. Et tu vois, ce genre de message que tu peux faire passer, j'ai réussi à m'en sortir parce que peut-être j'avais une dépression, j'avais un souci amoureux, ou enfin, peu importe. Je pense qu'on en parle pas assez. Et de mettre la lumière, en fait, justement, sur ça et sur ce sentiment des fois, des jeunes qui sont dans l'abandon aussi, et c'est super important. Donc,
et je pense qu'on sous-estime le fait de partager son histoire. Je pense que c'est aussi se décharger.
C'est ça.
Des choses négatives qu'on a en soi et faire savoir tout simplement. Je pense que ça peut faire du bien pour beaucoup de monde.
Alors, oui, ça fait du bien, mais encore, c'est à nous d'évaluer. Alors, évaluer, parce que c'est une discussion, quand on dit c'est frais. Par exemple, je prends le cas d'une jeune fille qui, elle, a porté plainte suite à l'agression physique de son conjoint. Voilà, ça a duré des années, elle a rien dit, etc. Jusqu'au jour où elle va porter plainte et elle fait cette démarche-là. Mais le problème pour elle, c'est être, maintenant, le partager collectivement, c'est pas évident.
C'est ça.
Je m'en suis sorti, ouais, voilà. Pourquoi j'irais sur scène, l'afficher publiquement et le partager avec d'autres. Donc ça, on discute bien pour dire qu'effectivement, est-ce que tu te sens prêt, etc. Donc là, pour
parler d'accompagnement. Ouais, c'est tout cet accompagnement, justement, que je voulais soulever et t'es là pour ça. Enfin, tu les accompagnes, justement, au moment où ils vont pouvoir, justement, se dévoiler sur scène et se dire, enfin, ou raconter leur histoire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on néglige un peu par rapport à tout ça, clair, par rapport à la jeunesse. Et c'est important de le dire, et c'est bien que tu sois là justement pour en parler.
Et que les gens sachent qu'il y a moyen de s'exprimer de par ce que tu proposes, notamment. Que c'est possible de le faire devant un public, c'est un bel exercice.
Ah oui, alors si certains veulent venir s'exprimer sur un sujet en disant ça peut aider d'autres personnes, voilà, je laisserai peut-être mes coordonnées.
Bien sûr, et après nous on fera le lien avec plaisir. Voilà.
Même si on n'est pas une personnalité, c'est pas l'idée d'être connu, hein, encore une fois. Hein. Si on a envie de partager, de se dire, mais voilà, j'ai une parole. Je pense à une jeune femme, alors je vais pas citer son nom, qui est venue, on faisait une formation pour la gendarmerie, pour le palais de justice, les associations, etc. Et elle était donc victime de pédophilie, voilà. Et elle voulait basculer de l'autre côté, devenir actrice de la prévention. Et elle m'a dit, mec, voilà, Karim, j'ai envie de, là, maintenant, d'aller former les gendarmes, former la justice, etc., les associations, parler, leur partager mon expérience en leur disant, là, ils font pas bien, là, c'est comme ci qu'il faut faire, etc. Et voilà, donc c'est important aussi d'un moment donné, d'avoir été victime et d'être reconnu comme victime, et à un moment donné, aussi avoir de la possibilité d'être acteur, de ce qu'on a connu, et de transmettre, et d'être, de l'autre côté de la barrière.
Et on a parlé de plein de choses te concernant. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites dans tout ce qu'on a dit sous le prisme de l'étincelle théâtre ou pas du tout? C'est encore autre chose.
Mais l'étincelle théâtre, mais si, c'est tout.
C'est la naissance peut-être.
C'est la naissance, l'étincelle, c'est la naissance. L'étincelle, c'est une structure que j'ai créée en 98. Et c'est une structure où on parlait d'espace, de créer un espace comme vous le faites avec la radio. C'est on crée des espaces où on va pouvoir s'exprimer. Où ça va être le plus proche, parce que c'est ça la difficulté, c'est parfois dans des compagnies de théâtre, on se dit mais ce qu'il raconte là, ça me parle pas. Mmh. Ou voilà, donc on a envie de se rapprocher au plus près de l'espace où on va pouvoir être le plus libre dans l'expression, etc. Donc pour moi, créer une structure avec d'autres, hein, c'était me créer cet espace de création et d'expression. Donc dans l'étincelle, on a travaillé. Je parlais tout à l'heure des seringues, des questions autour de la toxicomanie, etc.
Donc ça, c'était sujets, avec l'étincelle.
L'étincelle sur question de citoyenneté, question de prévention de la violence dans les établissements scolaires. Oui, on avait beaucoup de choses sur. Mais même sur des questions. Je prends avec mes enfants, mes filles, c'est sur l'utilisation auditive, vous savez, des casques, etc. Ce qu'on utilise maintenant en ce moment. Mais sur ces questions-là, moi, je pense que c'est aussi important de parler de, parce qu'on n'en parle pas assez, d'audition. Et que l'abus des casques, etc. Les musiciens le savent mieux que nous, mais voilà. Donc faire un travail de prévention, je pense, c'est important. Et l'étincelle m'a permis de travailler sur ces questions-là.
Moi, c'est un de mes plus grands regrets de jamais avoir fait de théâtre.
Mais ouais. Jamais trop tard.
Ouais, jamais
trop tard. Ma mère voulait absolument que j'en fasse quand j'étais petit, mais c'était un peu la honte.
Pourtant, t'es un petit mytho quand même.
C'est quoi le rapport?
T'arrives à transformer les choses. Non, je plaisante. Ça veut dire que t'arrives quand même à jouer.
Ouais, mais je pense que ça sert, peu importe ce que tu fais dans la vie. Je pense que passer par une période de ta vie où tu fais du théâtre, c'est forcément bénéfique.
Ah, c'est bénéfique. Je pense que ça serait obligatoire. Ça devrait être obligatoire. Là, on le voit bien. Vous savez, maintenant, il y a le grand oral du bac et le grand oral du brevet. Ouais. Donc, on comprend bien, un peu comme les Anglo-Saxons, que c'est important que nos jeunes, qu'on apprenne, qu'on ait cet apprentissage de la prise de parole. Voilà, il suffit pas d'être intelligent, parce que vous avez beau avoir des bonnes idées dans votre tête, etc. Si vous les exprimez pas, voilà, vous pouvez passer à côté de votre vie, ou voilà, vous faites une rencontre. Clair. Ça peut être une rencontre amoureuse aussi, hein. Voilà.
J'en ai raté des relations à cause de ça.
Bon, voilà. Parce que t'as pas réussi à t'exprimer.
Ou au travail autour voilà.
C'est-à-dire que, regarde. Parce qu'aujourd'hui, les autres.
Voilà, tu mens, frère. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai, et c'est ce qu'on dit. La parole, en fait, c'est l'arme première, en fait. Si t'arrives à t'exprimer et justement à dire les choses, à transmettre tes sentiments, ça éviterait beaucoup, beaucoup de choses, je pense, tu vois. Et le théâtre, ça exprime aussi, ça te permet de te libérer, de pouvoir t'exprimer en public, à l'oral, en français, pas, enfin, il y a plein de trucs.
Mais voyez le grand champion Mohamed Ali. Mmh. il avait une, il a gagné des combats grâce à la parole. Ah, grâce qu'à la parole.
Il a réussi à déstabiliser ses adversaires.
Rentrer voilà. dans la tête de ses
Et on sait bien que, voilà, et que les combattants utilisent de plus en plus la parole pour peut-être même gagner avant le combat.
Le trash talk, hein, on en parle. Voilà. Jamal, merci de nous le souffler, tu vois. Mais le trash talk, c'est ce qui, il y en a des, tu sais déjà, on parle de combattants qui sont là et qui arrivent à déstabiliser avec un mot, une parole ou,
Et même pendant le combat.
Et pendant le combat. Ouais,
perdre les moyens à son adversaire et gagner de cette manière, c'est tout à fait possible. Voyez, parce que on dit souvent dans les sports qu'il y a des champions de salle et des champions finalement incontestés dans leur discipline. Et je pense que c'est cet aspect-là mental finalement qui fait la différence entre les champions de salle qui sont forts à la salle mais qui n'arrivent pas à faire leurs preuves en compétition et les champions incontestés de compétition.
C'est ça. Et nous, toi, t'es champion dans.
Rien.
Alors, je veux revenir quand même sur la progression. Je parlais de Agone quand j'étais enfant, le cheveu sur la langue, etc. Et aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise.
On l'entend en tout cas. Bien de le.
Et donc, se permettre, c'est ça, cette progression. Il y a pas d'âge pour, tu disais, mais ouais, mes parents m'ont dit de faire du théâtre ou pas de théâtre, etc. Il est jamais trop tard pour démarrer quelque chose, que ça soit un sport, que ça soit le théâtre, que ça soit n'importe quoi, la cuisine, ce que vous voulez, etc. Et pas de se dire, bah oui, c'est trop tard, c'est trop tard. Et se dire, c'est trop tard, mais non, rien n'est trop tard. Si on a envie, si on se dit, mais là, voilà, j'ai le désir d'apprendre, de progresser. Voilà, c'est ça le bon point de départ. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire du théâtre, n'hésitez pas à faire de la musique, n'hésitez pas.
C'est clair. Il n'y a pas de moment précis pour le faire, mais c'est juste dans l'enfance, à un certain âge, on a l'impression qu'on.
T'es pas légitime.
Qu'on apprend plus, c'est comme les langues
raison.
En fait.
Oui, bien sûr.
Donc,
bien sûr,
qu'on va vraiment être imprégné de ce qu'on apprend sûr, plus jeune. Je pense que dans ton évolution, du coup, il y a un plus gros impact.
C'est vrai. C'est pour ça que le théâtre, plus tôt on en fait, mieux c'est comme le sport. C'est une culture.
Exact. Et nous, justement, sur Focus, on aime bien laisser la parole, enfin le dernier mot à nos invités. Donc, tu auras l'honneur justement de conclure, et on aime bien justement donner le dernier mot en direction de nos auditeurs, des jeunes qui nous écoutent ou des moins jeunes. Mais si toi, t'avais un conseil en fait à donner à des jeunes ou moins jeunes justement par rapport à ton parcours de vie, ce serait quoi?
Moi, je dirais que tout à l'heure, vous n'êtes pas revenu dessus en disant que t'es parti en Chine, tu n'avais pas de sous, etc. Comment t'as fait, truc, tu vas pas pour les sous. Et puis même pour ça que j'ai eu un grand respect en Chine, parce qu'ils ont compris que j'y allais pas pour des sous. Et j'allais pour la mémoire de ces travailleurs chinois venus pendant la Première Guerre mondiale en France. Et ça, je pouvais pas le faire pour des sous. Je pouvais pas gagner. Pour moi, en tous les cas, c'était pas le but premier de gagner des sous sur cette mémoire-là. Et après, j'ai gagné des sous, parce que j'ai été invité, j'ai projeté le film, j'ai gagné un peu de sous quand même. Mais ça n'a pas été le point de départ. Et dans la vie, je pense que c'est important de se dire, c'est important de nourrir sa famille, de gagner ses sous, etc. Mais il faut se dire, encore une fois, est-ce que je suis à ma place et est-ce que je suis dans mon chemin? Alors parfois, dans son chemin, on ne gagne pas des millions. On apprend, on progresse, on apprend un métier, on apprend des choses, et puis à d'autres moments, on gagne un peu plus de sous. Donc, pas toujours penser aux sous en disant, est-ce que ça va me rapporter des sous?
Il faut que ce soit la motivation première.
La motivation première. Et voilà. Donc, moi, je pense que c'est un conseil, et des fois, on est surpris. Et on va gagner des sous à un endroit où on s'y attendait pas. On se dit, comment ça se passe là, où je gagne des sous, alors que ça fait, parce qu'on l'a fait naturellement, on l'a fait avec envie, on l'a fait avec passion, et les gens le ressentent, ça aussi, Voilà, parce qu'on est, on est tous sur sur des choses on va dire matérielles. Par exemple, moi j'ai la grande chance, j'aime pas tout ce qui est matériel. Donc j'ai pas de montre, j'ai pas de chaîne. Donc ça m'a allégé la vie quand même.
De pas avoir un bling bling.
Je pense que ça allège quand même la vie et ça permet d'être un peu plus près de ce qu'on aime, quoi. Donc c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aussi sa famille, et ça c'est important. Si j'ai le dernier mot, ses enfants, sa famille, sa sœur, son beau-frère, Hussein, que je salue, ma sœur Nadia, mes filles, mes neveux, j'ai les plus beaux neveux du monde. Et ça, c'est vraiment le trésor d'une vie, c'est avoir une famille, et ça c'est cadeau d'une vie.
C'est
un cadeau d'une vie. Voilà, c'est ça. Et donc on a un micro, on doit leur dire que je les aime.
Voilà. En tout cas, le message est passé.
C'était Karim Oufaïd. Merci pour ce beau message. Merci pour ce moment passé avec nous, pour cette petite heure où on a appris à te découvrir. C'est un véritable plaisir, pardon, de te rencontrer.
Mais Lick, j'oublie pas mes arrière-petits-neveux aussi.
Ah, bien sûr, il faut tous les citer.
Ah oui, c'est important.
Parce que Manal, ma nièce, ça serait pas content.
C'est vrai. Au moins, le tour est fait. Merci beaucoup, Karim. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous, Diam, Farah, Sidi.
Merci à toi, Mélique.
Merci pour votre invitation.
De Flat présente Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
98FM.
Focus. 98 FM.